Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes avec la compagnie ZAD. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc 5 au studio. David, Conrad.
Bonjour.
Pour commencer, tu es le metteur en scène aussi de ce spectacle qui s'intitule Sunset Café. Tu fais partie aussi du jeu des acteurs, des comédiens ?
Non, du tout.
Pas du tout.
Alors, moi, je suis l'auteur et ensuite je mets en scène avec Aurélien, voilà, qui est lui aussi comédien du coup dans la pièce.
Ensuite, nous avons Rodolphe Paulet. Bonjour.
Bonjour.
Comédien donc pour ce spectacle.
Tout à fait.
Avec Aurélien Serre.
Bonjour. Bonjour.
Ensuite, NJ Julien Binard. Bonjour.
Bonjour.
Thibaut Deloche.
Bonjour.
Donc tous les 5, vous donnez rendez-vous aux auditeurs pour une représentation qui se passera donc à l'ancien monastère de Sainte-Croix. Et ça sera samedi 7 à quelle heure ?
Donc du coup à 20h30 exactement.
Sunset Café, c'est le nom d'un lieu, on peut dire.
On pourrait dire que c'est le nom d'un lieu, même c'est le nom d'un bar. Qui est dans, on va dire, dans un sous-sol, milieu un petit peu lugubre à la base dans l'écriture. Et donc voilà, c'est le nom d'un café qu'a donné la patronne Marie et qui est joué par Angie.
C'est aussi le nom d'un cocktail dans le bar.
Voilà.
Sunset Café, donc ce sont 4 personnages qui se retrouvent dans ce bar.
Voilà, donc du coup, là, on va dire l'intrigue, c'est Marie qui attend des clients pour remettre à flot les comptes du bar. Voilà, c'est ça l'intrigue. Après, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui tournent autour, mais ça, on ne va pas trop les divulguer.
Donc, une difficulté pour Angie. Hein. D'ailleurs, le nom du personnage, Marie, donc vous êtes là pour, comment dire, renflouer les caisses, en quelque sorte.
Elle est là pour essayer de maintenir un rêve, en fait, j'ai l'impression. Elle espère renflouer les caisses et transformer son bar, mais l'idée, c'est de garder ses camarades auprès d'elle pour que les choses ne se transforment pas, en fait. Elle est dans un endroit d'inquiétude, quand même.
Donc, ses amis, ses clients sont proches, c'est de la famille, même.
Ben ouais, je pense que les 3 autres personnages qui sont auprès d'elle sont des gens qui sont proches. Après, quel est vraiment leur lien de parenté, on n'en sait rien. Il y a des choses qui se dévoilent au fur et à mesure, mais on divulgue pas forcément ça à l'intérieur du texte. Et après, il n'y a pas de clients qui arrivent. En fait, ils sont dans cette attente. Ils ont l'attente des gens.
Pour les autres comédiens, Rodolphe, Aurélien, Thibaut, vous avez travaillé ce rôle de pilier.
Pilier de bar ?
Oui.
Moi, j'en suis déjà un dans la vie. C'est vrai. Si. Du coup, un peu moins maintenant, mais je l'ai beaucoup été, donc pas tant que ça. Enfin, en tout cas, pour Tom, c'est d'autres choses qui sont à travailler, parce que contrairement aux 3 autres personnages, il est... Et on va dire qu'il n'est pas vraiment issu du même milieu socio-culturel que les autres. Enfin, c'est expliqué à un moment dans la pièce. Et c'est une sorte de pièce rapportée qui trouve aussi son compte dans ce bar et dans l'attachement qu'il peut avoir avec eux. Donc les enjeux sont un peu différents, je pense, des 3 autres de Marie, Eddie et Bébert.
Rodolphe, pareil, pour Thibaut aussi.
Bébert, lui, c'est plus qu'un pilier de bar. C'est aussi, il fait partie des meubles, c'est un peu le bar aussi lui-même. Il est là depuis le début, j'ai envie de dire. Et c'est un personnage qui est devenu un peu l'homme à tout faire du café, en fait. Voilà.
Et moi, le personnage que j'incarne, Eddie, c'est un jeune gars, enfin relativement jeune, qui est surtout... qui s'occupe de la sécurité, en fait, qui a été engagé par Marie, mais il a été un peu recueilli par Marie. C'est quelqu'un qui est un peu paumé dans la vie et qui est un peu... comment dire, des capacités intellectuelles un peu limitées, qui est très premier degré, et qui, du coup, Marie l'a recueilli un peu, et du coup, il s'occupe de la sécurité dans le bar. C'est, voilà, c'est son moyen d'expression. La violence est un peu son moyen d'expression, et sa recherche de reconnaissance aussi.
Donc, on parle de violence, hein, et il y a quoi d'autre qui est abordé dans ce spectacle ?
Ce qui est important, c'est de voir que chacun, ils ont un poste dans le bar. Donc, Marie est la tenancière, donc la gérante, c'est elle qui gère tout, et qui décide de ce que doivent faire les autres. Eddy, comme l'a dit Thibault, c'est celui qui fait la sécurité. Tom est le DJ, donc du coup celui qui passe la musique, et Bébert est l'homme à tout faire, celui qui doit tout simplement faire l'entretien, si tant est qu'il le fasse.
Voilà. Ouais.
Voilà.
C'est un moment en continu, ou alors c'est une représentation qui se fait sur une période d'un temps donné?
Non, c'est un vrai moment en continu. Alors après, le temps se dilate beaucoup. Tout n'est peut-être pas très... comment dire
Le déroulé
linéaire au niveau du temps. Ouais, c'est pas ça, forcément linéaire, mais c'est effectivement c'est une espèce de plan-séquence de qui commence à un moment donné, qui finit... Il n'y a pas de coupure.
Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de coupure.
Voilà.
C'est en temps réel, en fait.
C'est en une scène et un acte, donc.
C'est plusieurs scènes, mais c'est un grand acte. C'est un temps réel. C'est pendant à peu près. Enfin, on a ce sentiment-là, quoi.
Oui. C'est un moment de vie qui est pris, en fait. C'est vraiment, on les chope à un moment de vie, c'est un moment de leur vie à eux qui part d'un point A jusqu'au point B, et on est un peu spectateur de ce grand ballet.
C'est vrai que ce que dit Aurélien, c'est vrai que la volonté dans l'écriture, elle était de montrer un moment de vie. Après, on pourrait dire que c'est un angle d'attaque dans l'écriture sociologique, mais c'est pas... On pourrait peut-être le dire, mais ce serait forcer le trait. À l'inverse, il n'y a pas de... la volonté, c'est qu'il n'y a pas d'adresse au public. Donc, c'est, à un moment donné, il y a un vase clos, un huis clos, hein, et on observe tout ça.
Sunset, pourquoi ce jeu avec ce chiffre ?
Oh, alors là, je vais vous raconter. Alors, quand j'écrivais la pièce, c'était assez particulier, parce qu'une fois, je me disais... je ne sais pas comment j'allais l'appeler, cette pièce. Et puis, il y avait un passage dans la pièce où ça aborde Sunset Café. Donc, le nom du bar est donné. Mais c'était le Café Le Trou. Et tout le temps, ça allait être Café Le Trou. Et en réécriture, je l'ai changé parce qu'un jour, j'étais à Lyon, donc au tram. Et puis, il faisait, je ne sais pas, il devait faire moins 3, moins 4. Et devant moi, il y avait une personne qui était en claquette, il neigeait, en Bermuda, t-shirt. J'ai trouvé ça magnifique, genre je regardais ce personnage. Le tram est passé, lui il a disparu, puis tout d'un coup devant moi il y a eu un hôtel qui s'appelait le Sunset. Et j'ai vu cet homme rentrer là-dedans, et puis et puis j'ai dit « Ah, Sunset !» Et donc j'ai réécrit toute la première partie avec Sunset Café, et du coup à la base c'était Café le Trou, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais qu'importe. Et puis du coup ça s'est transformé en Sunset Café. Pourquoi à proprement parler ? Je ne peux pas vraiment le dire. C'est quelque chose qui m'a plu, et du coup, il y a eu quelque chose qui était très plaisant là-dedans.
La compagnie ZAD, vous quatre comédiens en faites partie. C'est une compagnie qui regroupe combien de personnes d'ailleurs ?
Alors pour le moment, quatre comédiens. Là, on a un nouveau spectacle qui va démarrer avec deux autres comédiens. Il y a depuis quelques jours une diffuseuse et puis une administratrice. Voilà, et puis la régisseuse aussi, créatrice lumière, et puis aussi une scénographe. Donc ça fait peut-être une petite dizaine de personnes, 8-10 personnes. Voilà.
Il y a une représentation plutôt paritaire, donc, de cette compagnie.
Paritaire.
Vous êtes en parité, je veux dire
Là, aujourd'hui,
là,
pas vraiment.
Je parle de la compagnie en général.
Ouais.
Non, après, dans la compagnie, c'est surtout David qui reste le chef de compagnie. C'est surtout lui qui reste le chef de compagnie de ZAD. Après, on a tous notre mot à dire dedans. Ce qui est agréable, c'est qu'en tout cas, on peut en débattre, on peut en parler, on peut revoir ça aussi ensemble. Mais c'est David qui reste l'initiateur de la compagnie et qui l'a créé, en tout cas, et qui en est là. Le papa.
connais le directeur.
Ce qui est important, c'est que pour la volonté, elle part d'une écriture et ensuite de mettre en scène cette écriture. Donc, de fait, vu que c'est moi qui écris, automatiquement, on peut dire que, je suis le directeur, mais c'est très enfermant de dire ça. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. À l'inverse, il y a une vraie égalité sur la mise en scène, etc. Il y a des choix, on se fait bousculer, c'est très bien. Si vous voulez, comme c'est moi qui écris, ben, de fait, automatiquement. Mais pareil, dans la mise en scène, Aurélien est à mes côtés, ce qui n'empêche pas aux autres comédiens de faire des propositions. Et si effectivement, c'est beaucoup plus intéressant, allons.
Voilà. Justement, oui, pour la conception des spectacles, donc je vous abordais, vous quatre comédiens au sein de la compagnie. Votre rôle n'est pas seulement d'être comédien ou interprète, mais vous participez aussi à la construction de ce spectacle. Vous partez d'un texte déjà établi, ou alors ce texte se nourrit de ces séances de création?
Alors, le texte est déjà écrit à la base quand on arrive. C'est vraiment son travail d'auteur qui est là pour nous fournir un texte déjà écrit, conçu, pensé, réfléchi pour les acteurs. Et après, nous, on se l'approprie, on travaille sur scène, et après, il y a des choses qui bougent dans l'écriture, dans le texte. En fonction de nos propositions plateau, il y a des choses, on s'aperçoit, qui fonctionnent d'un point de vue littéraire dans l'écriture, et qui, après, au plateau, du mal à supporter l'épreuve de la scène. Donc, du coup, David, derrière, remodifie des choses, ou avec nos propositions, ou ça vient de lui, pour avoir un objet scénique qui soit complet entre le point de vue des acteurs du plateau et son désir d'auteur et son désir de metteur en scène.
Voilà. Et j'aimerais rajouter une chose. Bon, Sunset, à la base, c'était 57 pages. C'est redescendu à 51, je crois. Donc, le Serre, vraiment, il porte son nom.
52.
Parce qu'il nous a... 52, d'accord. Mmh. Bon, très bien. Et donc, on a coupé quand même pas mal de pages, des grosses séquences, parce qu'effectivement, quand on est auteur, on ne le voit pas nécessairement. Et puis, avec les propositions qui sont faites. Et puis aussi, il y a une vraie liberté. Ça, c'est une chose à laquelle je tiens quand on joue. Tant que les enjeux, on ne les enlève pas, ce n'est pas un problème, mais des mots peuvent en remplacer d'autres. C'est pas coulé dans le... Les enjeux sont un petit peu plus coulés, puisque c'est la trame. Mais si on peut... Je prends un exemple. Thibault, dans un passage, il n'y a pas longtemps, quand on était justement à Avignon, a étendu un passage du texte et a refait une proposition. Il n'est pas dans l'écriture, mais moi, je trouvais ça bien. Quand on peut reprendre les mots, se les réapproprier et les développer d'une autre manière, c'est plaisant. Ça, c'est important, ça, pour moi.
L'écriture se fait sur une idée ou alors aussi en fonction des comédiens?
Alors, pour Sunset Café, j'avais écrit une dizaine de pièces que je donnais à un monsieur qui s'appelait Pierre Bianco, qui avait joué avec Planchon, enfin quelqu'un, mais je n'aimais pas ce que je faisais. Et puis, un jour, j'ai participé, j'ai fait plein de formations, et puis je réfléchissais sur l'écriture, ça ne me convenait pas. C'était trop distancié à la méthode française, une voix un petit peu plus, on va dire, portée, et je ne m'y retrouvais pas. Et puis un jour, j'ai fait donc cette formation qui s'appelle la Creative Writing, qui est la méthode américaine, Comme Faulkner avait déjà développé cette méthode-là, je suis allé voir et je me suis retrouvé un jour avec quelqu'un à Lyon qui faisait une formation qui a duré à peu près 2 ans. Et au bout de la deuxième année, j'ai écrit Sunset Café. Donc à la base, elle était pour... elle était vraiment pour une volonté de texte sans avoir des comédiens à proprement parler. Maintenant, ça commence un peu à bouger. Là, le souffle de la bombe, c'est pareil, mais ça bouge. Là, il y a un autre monologue que j'écris qui est plus peut-être pour trois comédiens, même si c'est qu'un monologue. Donc, je réfléchis à des choses. C'est un mouvement, donc il n'y a rien de fixe. Et puis, je trouve que plus on se diversifie, plus on essaye de sentir des choses pour qu'elles fonctionnent, et plus c'est intéressant, puisqu'on ouvre énormément l'éventail de jeux. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est avoir un aspect le plus libre possible du jeu.
Et puis, j'ai l'impression aussi qu'on est une jeune équipe. C'est-à-dire que la compagnie existe depuis pas très longtemps. Nous, c'est notre première création tous les 5. Et que du coup, maintenant qu'on s'est rencontrés, de ce que tu nous as dit, tu as des désirs de continuer la route, un bout de route avec nous. Je pense qu'il y a aussi des choses, du coup, dans ta démarche d'écriture qui changent aussi par rapport à ça. Et où, du coup, tes prochaines pièces, tes prochaines écritures, forcément vont être influencées par les échanges et le travail qu'on fait ensemble.
Complètement. D'autant plus que là, il y a un autre texte auquel ça fait 8 ans à peu près, je pense, qui va se passer sur une plage. Et il y avait des personnages qui s'appelaient Cheval Fou, des choses comme ça. Mais il y a des personnages qui commencent à monter à l'intérieur, je le sens, hein, par rapport à Aurélien, à Angie et Thibaut. Cheval Fou, il est déjà décidé.
Voilà. Avant de continuer sur la compagnie, je voudrais savoir, vous les comédiens, qu'est-ce qui a fait que votre parcours atterrisse dans ce Sunset Café?
Oh, allez, vas-y.
J'ai travaillé sur un autre projet, c'était sur un Ulysse avec... Avec un monsieur qui s'appelait Renaud Beuchet et qui avait déjà rencontré David, et David à l'époque cherchait quelqu'un pour le rôle de Tom, et du coup ce monsieur Renaud Beuchet m'a dit: ah bah Aurélien, tiens, je peux te mettre en contact avec David, essayer de voir un peu ensemble si ça peut coller, et puis ça a marché.
Et toi, ça fait un moment que tu es comédien, donc
Ça fait plus de 10 ans, oui. Oui, ben pour mon parcours, oui, du coup, je viens du Compagnonnage Théâtre à Lyon. J'ai fait la promo 2007-2009 et du coup, depuis, ben voilà, je vis ma petite vie de projet en projet. Certaines de mes créations et puis voilà, d'autres créations avec d'autres compagnies.
Avec voilà. Bonheur.
Avec Bonheur, oui. Ouais, oui.
J'aime bien quand tu m'appelles Bonheur, Aurélien. Oui.
Ben moi, je sors du Conservatoire d'art dramatique d'Avignon. Je suis sorti en 2004, donc ça fait une quinzaine d'années que je suis professionnel. Et voilà, je navigue de projets, de compagnies, en fonction voilà, de ce qu'on me propose ou de ce que je trouve. Et puis avec Aurélien, ça fait un moment aussi qu'on se connaît. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on travaille ensemble dans d'autres compagnies. Et du coup, ben, moi, c'est par Aurélien que je suis arrivé dans ZAD. C'est Aurélien qui, du coup, un jour m'a dit: bah voilà, j'ai rencontré David Conrad et il cherche un comédien qui a fait un peu des arts martiaux, tout ça. Et moi, j'ai un parcours d'arts martiaux à la base, en plus du théâtre. Et du coup, bah voilà, on s'est rencontré avec David. Et puis, malgré ma carrure de gringalet, il a bien voulu me confier le rôle de la sécurité.
Angie, par exemple?
Eh ben moi, il y a très longtemps, j'ai fait un conservatoire de théâtre. Plus tardivement, j'ai fait une école de clown qui s'appelle le Fraco sur Lyon. Bon, puis d'autres trucs. Hein. Et pour en revenir à ZAD, je connaissais un petit peu Aurélien, mais de loin, parce qu'on s'était croisés sur certains projets lointains. Et je connaissais Thibaut, avec qui on collabore depuis une dizaine d'années, en fait.
Oh, ouais, quelque chose comme ça. Ouais.
Et du coup, c'est par l'intermédiaire de Thibaut que je suis arrivée sur le projet.
Et Rodolphe, donc
Et Rodolphe, moi je suis un petit peu le petit jeune de la compagnie, un petit peu, enfin, qui débute, on va dire. Non, en fait, mon parcours, il n'est pas de comédien, il est assez récent, finalement. Donc, je travaillais plus dans la post-production de documentaires, de films, en post-production son, au départ. Et du coup, il y a quelques années, enfin une dizaine d'années quand même, j'ai commencé à faire du théâtre, à tourner dans des courts-métrages en tant que comédien. Et petit à petit, ça s'est professionnalisé, on va dire. Et suite à un stage que j'avais fait, justement, concernant le jeu d'acteur, dans les premiers essais, parce qu'il y a eu quelques essais avant sur Sunset Café, il y a un comédien qui avait parlé de moi à David. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé un petit peu embarqué dans cette aventure.
Et puis on peut parler aussi du décor, hein, qui est comment la reconstitution d'un vieux café. Donc
oui, le texte est dans le réel et du coup, alors on aurait pu faire autre chose, mais comme moi je voulais travailler sur le réel, autant dans le jeu des comédiens, etc. J'ai rencontré Caroline Norio, qui est une scénographe qui commence à être bien solide, hein, maintenant, très, très connue dans le milieu de la scénographie. Et puis je lui ai dit, j'aimerais avoir un bar réel, sauf que j'aurais qui sente mauvais ou qui soit sale. Parce que je trouvais que travailler sur la saleté, ça me plaisait bien, moi. Là, je trouve ça beau, la saleté. Mais enfin, bon, ça, c'est un aparté, mais toujours est-il qu'elle nous a fait un décor qui est très, très beau, mais qui est sale. Voilà. Et donc, la veille, il y avait une vraie volonté d'un décor.
Par contre, il sent pas mauvais.
Oui, il sent pas mauvais. Mais moi, je voulais qu'on ait l'impression qu'il pue.
Tu parles du décor ?
Oui, je parle du décor, oui, pour le moment. Pour le moment. Mais c'est vrai que j'avais un vrai, qu'on ait en le regardant, on le trouve, qu'il y ait cette ambiguïté que des fois on peut avoir, vous savez, sur quelque chose qui est à la fois beau et puis qui est un peu répulsif, quelque chose comme ça. Puis en fin de compte, c'est vrai qu'il est assez...
il est miteux.
Ouais, il est miteux. Ouais,
une espèce d'autre série, c'est ça.
Le pragmatisme de Marie.
Poisseux, même.
Ouais.
J'ai pas compris, on parle de qui, là ?
Des murs.
On parle uniquement pas toi, des Aurélien, murs. T'inquiète pas, on dirait pas ça à la radio. On en parle en privé, mais pas à la radio.
Alors, un ancien lieu qui accueille malgré tout des personnages et qui s'y accommode d'ailleurs à ce lieu.
Il va y répondre.
Non.
Je crois qu'ils font avec, ils n'ont pas d'autres endroits où aller. Et du coup, non, je crois que ça ne leur convient pas en vrai. Mais ils font en sorte qu'ils y trouvent, une certaine satisfaction, en tout cas un point d'attache. Quoi.
Ouais,
mais non, je ne crois pas qu'il leur plaise.
Parce qu'il y a quand même une vraie volonté d'essayer d'en sortir aussi.
Oui.
Pas de sortir forcément de ce lieu-là, mais en tout cas de le transformer, de l'embellir et de...
De sortir
d'un peu de cacher la misère.
Il y a un désir d'ascension sociale, on va dire, mais globalement, quoi.
Ouais, alors quand Angie dit ascension sociale, c'est là qu'en trame, vraiment, il y a une dimension politique quand même du texte, même si on ne la voit pas, alors pas à sens politique où on pourrait l'entendre. Hein.
Elle n'est pas revendicative. D'accord,
elle n'est pas revendicative. Et elle est plutôt donc, dans un sens politique, on pourrait dire philosophie politique. Hein. C'est-à-dire qu'on voit des fois qu'il y a des passages, c'est la lutte des classes, hein, c'est marxiste, mais il y a plein de choses comme ça. Mais ce n'est pas la volonté c'est la jouer, c'est tout. Chacun en tirera son... Donc, du coup, être dans le réel et être dans un questionnement du lieu, l'identité, vous savez, c'est vachement important. Hein. Et puis aussi dans ces vies qui sont un petit peu... je vais pas faire mon intello, mais il y avait un sociologue qui s'appelait Zygmunt Bauman qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Le présent liquide, où en fin de compte, chaque personne n'appartenait plus à une identité, ou une identité qui était factuelle, et donc ne pouvait plus s'insérer dans la société. Et donc, ça, je l'ai gardé dans un coin de ma tête, et je voulais que ça apparaisse légèrement. Voilà.
Oui, parce que c'est quand même quatre personnages bien abîmés par la vie.
Oui.
Enfin, ils ont tous un peu le casque un peu abîmé, quoi, je veux dire.
Ils sont tous border, quoi.
Ouais, ouais. Ah ouais, complètement, ouais.
Ce qui n'enlève pas d'avoir des choses qui sont... À la fois, on va en rigoler, mais on va en rigoler parce que peut-être c'est pathétique, parce que des fois, on rigole de choses et d'autres. Vous savez, on peut rigoler de celui qui se fasse casser la gueule mais dans la rue, mais après, si c'est nous, on ne va pas trop en rire. Mais vous voyez, donc, du coup, c'est pas le rire grotesque, vous voyez, dans le genre... Sauf que ça a déclenché le sourire... Déclencher, c'est pas volonté dans l'écriture, mais c'est la vie.
Bon, y a quand même des choses dans l'écriture qui sont clairement de l'humour aussi. Il faut pas non plus. Oui. Enfin, t'as quand même mis de l'humour dedans. On est sur de l'humour un peu absurde par moment, sur la situation, voilà, sur des choses comme ça. C'est pas du gros gag. On n'est pas dans du boulevard ou du café-théâtre, mais on est quand même dans une écriture qui n'est pas. Qui est quand même autant couleur. Et les personnages sont aussi en couleur. Et tous ont des registres assez différents. C'est-à-dire qu'ils ont tous leurs moments d'émotion, de drame, et aussi leurs moments d'humour. C'est ça que... Moi, quand David m'a proposé ce texte, ce qui m'a plu, c'est que j'ai... alors le texte, la densité du texte, tout ça, j'ai vu. La rythmique, tout ça, c'était assez intéressant. Mais c'est surtout que j'ai vu, en tant qu'acteur, qu'il y avait de la matière à jouer pour les acteurs. Et c'est ça qui m'a plu. C'est ce côté très riche de l'écriture où je me suis dit, tiens, je sais pas encore quoi, mais il y a quelque chose à faire avec en tant que comédien. Il y a de quoi jouer. Il y a des moments où ça va être dans l'énergie, dans un truc de très en force, de la violence. Il y a des choses où ça va être au contraire plutôt dans de la légèreté, de l'humour. Enfin, il y avait tout un panel comme ça de couleurs. C'est ce qui m'a donné envie d'accepter ce projet. Parce que c'est quand même toujours assez plaisant quand on est comédien et qu'on nous amène à un objet, parce que des fois, ce n'est pas le cas, un objet comme ça, un texte où on lit et on se dit « Ah ouais, là, il y a un truc à faire, je sais pas encore quoi, mais il y a... Ouais. Là, il y a un truc à inventer.
Il y a de la densité, quoi.
Ouais.
C'est ça, puis même théâtralement parlant, ça fait du bien d'avoir sur scène ces espèces de soupapes. C'est-à-dire qu'on peut pas être tout le temps dans du pathos ou autre, parce qu'au bout d'un moment, on n'écoute plus. Enfin, il y a quelque chose, même à l'écoute, on se lasse très vite, et qu'on a besoin aussi sur scène pour nous, nous nourrir aussi et renourrir l'écoute, d'arriver à trouver ces petites soupapes qui font du bien aussi.
Oui, qui aèrent.
Comme dans la vie.
Mais là, aussi étonnant que ça puisse l'être, l'écriture n'est pas une écriture classique. Mais elle a un registre classique. C'est-à-dire que moi, je me reconnais dans Molière, par exemple, le côté où c'est absurde et c'est grave aussi, mais où on en rigole. Mais c'est le registre, je ne parle pas de l'écriture. Vous voyez ? Et du coup, ça, c'est très intéressant de parler de gravité, de choses extrêmement graves, mais qu'on en rigole. Parce que je trouve que c'est une distanciation qui va marquer plus et peut-être s'interroger sur sa propre condition, etc. Parce que l'objectif d'un texte, c'est qu'on s'interroge. Autrement, ce n'est pas la peine. Vous voyez, il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Et donc voilà, ça, c'est très important dans l'écriture. Et du coup, ils le font admirablement bien. Moi, je suis comme un coq en pâte quand je les vois jouer.
D'ailleurs, David, vous êtes présent à chaque représentation ?
Ah oui, j'ai besoin de les voir.
Et on n'arrive pas à l'enlever, on n'arrive pas à dire partir.
On essaye,
on fait tout. On fait tout
vous, avez déjà eu, mais... vous avez déjà eu un chewing-gum sous la chaussière ? C'est moi, c'est tout. toujours présent. Ouais, à Avignon, j'étais tout le temps là et puis j'en ai besoin, oui.
On pourrait avoir une idée de ce spectacle avec un extrait donc, que vous nous proposez.
Oui.
Eh bien, on vous écoute.
Voilà, on est en scène 6, il me semble.
5.
D'accord, 5, je me suis fait reprendre.
En plus, il écoute rien. Il est tout le temps là, il écoute rien.
Voilà, c'est lui qui a écrit.
Hein, il paraît que c'est lui qui a écrit.
Ouais, je dors souvent.
Je t'avais dit de te doucher avant de venir.
Mais je me suis douché.
Il y a une semaine.
Et hier, aux douches publiques.
Et à la sortie, t'as passé au peigne fin toutes les poubelles de la ville.
Bah, aujourd'hui aussi. Oh, ça te fait rire de demeurer là?
Si c'est pour puer comme ça, tu retournes d'où tu viens? T'as les t-shirts?
Avec moi.
Dans les poubelles?
Bah dans un sac propre, attends. Où est-ce que j'ai fourré cette saloperie de sac?
Si tu me les as perdus, je sais pas ce que je te fais, bébé.
Je les avais avec moi tout à l'heure, où c'est que je les ai mis?
T'as plutôt intérêt à les retrouver ou tu passes pas à cette porte vivant?
Qu'est-ce que j'en ai foutu? Je suis sûr de les avoir pris avec moi tout à l'heure, à moins que... Ah, les voilà!
Montre voir. Et tu comptes aller te doucher?
Je sens pas tant que ça.
Normal, ton nez refuse de sentir. Et la porte, t'attends qu'elle se ferme toute seule?
Et vas-y, toi. Allez, va fermer la porte.
Fais ce que te dit Bébert, c'est ton supérieur. Voyons voir.
Regardez-moi ça. Le monsieur de la sécurité, toi qui voulais rigoler, 4 portes qui s'ouvrent le matin et 4 qui se ferment le soir, ça fait combien?
Quoi?
On est 4 ici. 4 portes qu'on ouvre le matin et 4 qu'on ferme le soir, combien ça fait?
Ça fait pas chier.
Mais tu sais pas compter, alors ça fait combien?
Parfait, ils sont parfaits. Mais attends ton tour, toi.
Alors, ça fait combien?
Tiens, celui-là, c'est pour toi, et pas un mot. Ça, c'est à toi.
Merci, alors ça fait combien?
Et ça, il est pour moi.
Et moi? Et moi?
Mais d'abord, tu réponds à Bébert, 4... comment t'as dit, là?
4 portes qui s'ouvrent le matin et 4 qui se ferment le soir, ça fait combien?
Si tu réponds bien, tu gagnes un beau t-shirt.
Je joue pas.
T'as pas ton t-shirt alors?
Je joue pas, j'ai dit.
Mais réponds, et tu gagnes un beau t-shirt. Sécurité, regarde.
Faites chier, là. 4, 6, c'est pas ça. Comment que t'as dit, Bébert? 4 le matin et 4 le soir? Il y a un piège, il y a qu'une porte qui claque, c'est toujours la même. Ça fait 1.
Non, abruti, combien de fois elle claque?
Ah bah ça va, j'ai cru qu'il y avait un piège. Alors, 4 portes qui claquent le matin et 4 qui claquent le soir. Bon, bah, c'est dur parce que c'est toujours la même porte qui claque, là.
Tu donnes ta langue au chat?
Oh, j'ai pas dit, hein. La même porte qui claque 4 fois le matin et 4 fois le soir. Bah, Marie, déjà, moi, je viens pas tous les matins et Bébert non plus.
Non, mais on s'en balance si c'est le matin. On te demande combien de fois en tout elle claque quand on arrive et puis quand on part.
Mais on va pas le répéter 100 fois.
8. Ça fait 8.
C'est ton dernier mot?
Attention, il y a un t-shirt en jeu.
Attendez, je recompte. Alors, 4 le matin et 4 le soir... Ah bah ouais, 8, sûr, ça fait 8.
Allez, donne-lui son t-shirt, Bébert, il a trouvé.
Bébert,
hop, j'ai trouvé, ça fait 8.
Mais puisqu'on te le dit, imbécile. Allez, là, arrêtez les gars, filez-lui son t-shirt, Bébert.
J'ai trouvé,
donne-lui ce t-shirt. Stop. Plus compliqué maintenant, 8 portes qui claquent 6 fois.
Ah oui, là, bien plus compliqué.
Bah, je joue plus, j'ai gagné le t-shirt.
T'as gagné le torse, maintenant faut que tu gagnes le dos.
8 portes 6 fois. Pourquoi 6?
Le bar est ouvert pendant 6 jours, chaque jour la porte claque 8 fois, dis-nous combien ça fait.
Il t'a bien expliqué là.
48, ça fait 48.
Il vous a eu?
Il a trouvé?
Ouais, il a trouvé.
Mais comment t'as fait?
Le t-shirt.
Comment t'as fait?
D'abord le t-shirt.
Bon, donne-lui le t-shirt, Bébert. Dis-nous comment t'as fait maintenant.
Bah, j'ai toujours su mes tables à l'école.
Parce que t'es allé à l'école, toi.
L'école, c'était de la merde. Mais j'aimais bien quand même les multiplications, ouais. J'aime bien, ouais. 8 x 1, 8. 8 x 2, 16. 8 x 3, 24. Eh, ça balance la tête, les chiffres. Hein. 8 x 4, 32. Et 8 x 5, 40. Et
8... 7 x 6.
Et c'est bon, là.
42.
8 x 7.
56.
Il a bon ?
Ouais.
Eh ben, moi qui m'envoie avec la comptabilité.
Et il y a d'autres choses que t'as apprises à l'école ?
Je me souviens pas. Il faut qu'il serve, Bébert. T'as pris une taille en dessous ?
Je sais pas trop ce que j'ai pris. Hein. J'ai préféré me tirer avant qu'il voit que j'avais enfilé les 4 t-shirts. Et quand je suis passé devant les vendeurs, j'avais presque les bras tendus tellement que ça me serrait. Ils embauchent que des demeurés dans ce magasin, ils voient rien.
Et Marie ?
Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? C'est Bébert qui les a piqués. C'est pas moi, j'étais pas au courant, je lui ai rien demandé.
Marie !
Tu m'as rien demandé.
En veilleuse, toi !
Marie !
Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ?
Le t-shirt, Marie.
Bon, au lieu de me regarder. Fini d'installer le matériel. Voilà.
Merci.
Merci.
Merci. De rien.
Donc là, c'est un petit... Pardon. Je dis, c'est un petit passage où on bascule, mais c'est une... Pour Eddie, c'est très important parce qu'il y a les t-shirts. Et avec un t-shirt, il va se le mettre, il va prendre une identité. Et donc, il tient à avoir ce t-shirt-là. Donc,
oui, c'est son besoin de reconnaissance sociale.
C'est son besoin de reconnaissance sociale. Donc, du coup, on peut s'apercevoir que beaucoup, dans la société aussi, vous savez, une marque, c'est ça, hein, avoir un style de vêtement, etc. On prend une identité par rapport à un vêtement, en l'occurrence, le t-shirt-là. Donc là, on est dans l'absurde. Mais est-ce qu'on est... un individu, à partir du moment où on prend un t-shirt, là, on questionne beaucoup sur la vraie question de l'existentialisme, c'est ça, hein, quelque part. Bon, là, je fais un peu philo. Là.
Oui.
Ouais,
je crois que je le parle. Oui, parce que...
ouais. Sinon, on peut juste dire qu'il joue avec un t-shirt.
Oui,
et
voilà.
Voilà.
Tout simplement.
Ça marche
là,
aussi. Hein. Moins...
Ouais, ça marche mieux.
Et
même,
après, ils vont boire un coup.
Ouais.
Puis, s'ils ne me donnent pas mon t-shirt, je leur pète les dents.
Voilà.
Ce spectacle a été créé à Lyon hein, ou autour de Lyon ?
Déjà, il y avait une première distribution et puis après, on est reparti et on a donc recréé Sunset Café pour Avignon. Donc, là, on est allé nettement plus loin et là, maintenant, le spectacle est, on va dire, bien solide, hein, enfin, en tout cas solide. Et donc, pour Avignon, c'était vraiment la création avec la nouvelle équipe.
Alors, ce souvenir d'Avignon est lequel pour vous ?
Il faisait chaud.
Bah, c'est un peu la jungle. Hein.
Ah bah oui.
C'est non, ça aussi, oui. Bah, il fait chaud dans la jungle.
Non, non, vraiment, bah, c'est ce Avignon où il y a 1600 compagnies qui essaient de tirer son bout de gras. Avec pas forcément autant de monde escompté au rendez-vous. Et effectivement, il fait chaud, c'est la guerre des tracts, des affiches. Voilà. Après, c'est bien dans le sens où ça permet aussi un spectacle de s'éprouver. C'est-à-dire de vraiment... C'est quand même super confortable de pouvoir jouer 21 fois de suite sans s'arrêter et d'y aller. Et du coup, on trouve de nouvelles choses. Artistiquement, c'est plaisant. Après, effectivement, ça reste quand même une espèce de grosse guerre financière. Assez déplacé, mon sens.
Ouais, c'est ça, il y a vraiment un double souvenir. Quoi, si tu... Il y a l'organisation du festival en lui-même, de ce que c'est d'aller au Festival d'Avignon, et après, il y a le souvenir artistique, qui n'est pas du tout le même. Quoi. C'est-à-dire, artistiquement, c'est très agréable. Ça permet, comme dit Aurélien, ça permet de l'éprouver, d'aller... c'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de jouer 21 fois un spectacle qui vient de se créer, d'affilée, donc ça permet de très vite le roder. Puis après, la jungle d'Avignon, ouais, c'est vraiment... C'est laborieux, quoi.
Ouais.
Vous aviez un lieu attribué exclusivement ou alors il y avait aussi des changements de plateau ou de compagnie en journée ?
Il y avait des changements de plateau. On jouait au Théâtre de l'Adresse, qui est un théâtre qui est un tout petit peu hors des remparts, mais vraiment quand même à proximité du centre. Et du coup, il y avait toute une programmation. Et effectivement, comme dans n'importe quel théâtre à Avignon, il y a un délai très court de changement de plateau et de décor. Mais après, on avait le dernier créneau. Mais ça n'empêche pas qu'on jouait à 21h25 ouais. Et qu'il y avait quand même... 20 minutes de battement pour pouvoir s'installer, quoi.
Tout à fait, ouais.
20 minutes.
Oui.
On est ressorti musclé.
Moi, j'aurais rien que rajouté qu'on a vécu un peu ensemble et que, du coup, ça... vivre ensemble, ça veut dire que aussi quand on regarde comment fonctionne un comédien, alors que moi j'ai plutôt l'angle d'attaque d'auteur, hein, qui est accompagné dans la mise en scène avec Aurélien, parce que moi je faisais mes débuts en mise en scène, donc on peut pas considérer que j'étais metteur en scène. Heureusement qu'il y avait Aurélien à mes côtés. Mais donc t'es pas d'accord.
Si, mais t'as vraiment fait un boulot de mise en scène quand même.
Oui, mais va au bout de ton idée, David.
Oui, mais du coup, ça m'a permis, moi, de voir comment évoluer un spectacle, comment, sur plusieurs temps, l'objectif, chose qui fait que quand vous n'êtes pas une compagnie qui n'est pas connue, qui n'est pas référencée, c'est compliqué. Et donc, je trouve que il y avait cet objectif-là de mon côté, c'est de voir comment fonctionnent aussi les comédiens vis-à-vis d'un plateau, vis-à-vis des anxiétés, etc. Comment vivre ensemble, et puis aussi comment le faire évoluer. Et alors moi, ça m'a changé. Je veux dire que peut-être pas eux, mais moi, je sais que le personnage que j'étais à le 3 juillet et le personnage que je suis le 28 n'était pas le même. Avec même s'il y a encore des choses, enfin, il faut toujours chercher à progresser, en tout cas à évoluer, à voir des choses nouvelles, etc. Mais moi, ça a été vraiment une formation accélérée. Alors là, ça m'a bien plu pour ça. voilà.
Bah après Avignon, c'est vrai que tu fais la multitude de spectacles, des fois on se sent tout petit, noyé dans la masse, mais c'est aussi l'occasion des fois de faire des belles rencontres aussi à l'extérieur. C'est-à-dire il y a effectivement la vie en communauté entre nous, mais il y a aussi la vie en communauté au théâtre avec d'autres compagnies, avec les compagnies qui jouent avant, qui jouent après. Enfin nous en l'occurrence on était les derniers, il y a personne après, mais en tout cas ça nous a permis aussi de bien rencontrer les compagnies qui jouent avant nous. Et humainement c'est assez riche en fait. Il se passe plein de choses, c'est très chouette.
Le théâtre en général, cette pièce par exemple, est à jouer dans des salles de quel ordre ?
Je pense qu'on peut monter à 400, non ? Une jauge de 400, 300-400, ouais, 400, je pense. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que c'est important, on aime bien être, enfin moi je trouve que c'est bien d'être proche du public pour cette pièce-là, mais je pense qu'une jauge de 400, c'est déjà pas mal, non Thibaut ? Je sais pas.
Moi, je me pose jamais la question de la jauge. C'est plus des fois des questions de configuration d'espace ou de choses comme ça. Et puis surtout, quel est l'intérêt d'aller jouer à cet endroit-là, artistiquement parlant. Parce que moi, je sais que pour moi, c'est aussi intéressant d'aller jouer dans une salle des fêtes dans un village que dans un beau théâtre qui nous accueille. Ce qui dépend, c'est vraiment pourquoi on y va, avec quel spectacle et pour rencontrer quel type de public.
Oui, puis quel public ça intéresse ?
Bah, c'est ça.
Enfin, c'est toujours pareil. Après, qu'il y ait 400 personnes...
Oui.
Tant mieux. Plus il y a de monde, plus c'est cool pour nous. Mais après, on peut faire une très belle représentation avec 10 personnes.
À 50,
ouais, c'est ça, ouais.
Ce spectacle est promis à une belle tournée déjà ? Ou alors, comment ça se passe pour être programmé dans les réseaux ou dans le système du théâtre en France ?
Alors, déjà, à Avignon, on a eu quand même des programmateurs. Ça n'a pas été full, mais on a eu des programmateurs. Donc là, il y a des perspectives d'achat de Sunset Café, puisque c'est comme ça que ça se passe. Là, il y a Juliette qui s'occupe de la diffusion et qui va s'occuper donc de relancer tous les programmateurs qui sont venus. On n'a pas énormément de dates, mais au moins a priori pour le moment on n'est pas, c'est un début, donc on peut pas, on
mais
peut
c'est
pas
ça,
dire
c'est encore tôt après Avignon pour c'est savoir tôt,
voilà pour savoir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, c'est trop tôt après Avignon pour savoir. En tout cas, j'espère qu'il va durer assez longtemps, ce spectacle, parce qu'il y a quelque chose à présenter et je trouve que ça fonctionne très très bien avec les comédiens qui sont là.
Et puis on a déjà trois dates en avril. Donc il y a tout le travail de Juliette qui va démarrer à la suite d'Avignon, mais il y a déjà d'autres choses.
D'autres dates en avril, et puis j'espère des festivals. Voilà.
Sunset Café, pour vous, est-ce que ça serait aussi un reflet de notre société ?
Je dirais oui et non. Oui, dans le sens où, ce dont parlait David aussi tout à l'heure, c'est comment on arrive en fait à travers ces personnages, voir aussi comment ils arrivent à se démener pour sortir d'un endroit où ils sont. Ou en tout cas pour l'embellir, pour arriver à justement s'extraire de là où ils ne peuvent plus être. Et pour moi, en ce sens-là, ça résonne beaucoup avec aujourd'hui, où on est tous en train de se dire « Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? J'en suis où dans mon métier ? J'en suis où dans mon avenir, dans ma vie ? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça ? Le nombre de burn-out qui s'enchaînent ? Les gens qui démissionnent parce qu'ils ne peuvent plus tenir dans ces conditions-là ? » Et il y a cette chose-là où j'ai l'impression, mais après c'est très subjectif, sur cette chose où on essaie tous de savoir comment réapprendre un peu à vivre en ce moment ensemble aussi, parce que c'est des choses qui ont été beaucoup déconstruites ces dernières années.
Voilà, et puis aussi, on regarde vraiment Sunset Café, et les personnages se frôlent, mais ne rentrent jamais en dialogue. La seule dialogue qu'ils peuvent avoir, c'est peut-être des critiques, peut-être ils se chambrent, etc. Mais ont-ils des liens ténus qui puissent à un moment donné tomber le voile et venir dire les choses? Et quelque part, dans cette société à laquelle aujourd'hui beaucoup de gens sont à la fois bien, et puis d'autres, parce que peut-être socialement, ils sont mieux lotis, et parce qu'ils s'en sortent aussi, parce que financièrement ils le peuvent, mais d'autres sont en difficulté parce qu'ils ne sont pas entendus. Vous voyez, enfin, regardez une société comme ça qui est moderne, et quand vous vous rendez compte que l'an dernier 500 SDF sont morts dans la rue alors que nous on marche à côté, enfin, vous voyez, et du coup toutes ces vies se frôlent mais ne se rencontrent jamais, et c'est quelque part ce qui se passe dans Sunset Café. Alors je répète, il n'y a pas une volonté politique là-dedans, mais c'est joué. Et puis on le voit et on en tire. Mais est-ce que c'est un reflet à proprement parler? Non, parce que c'est du théâtre. Est-ce qu'il y a des strass ça et là de la société? Oui. Enfin, je pense.
Est-ce qu'il y a une petite référence à Tango de Rybczynski?
Non.
Non?
Non. Non. Mais il y a une référence à... Alors, il y a beaucoup de références, mais plus littéraires dans le sens... Enfin, je veux dire, Tango, c'est aussi littéraire. Mais bon, il y a plus une référence à Faulkner. Il y a des références à Bukowski. Et puis, il y a des références... à des auteurs américains. Ouais,
puis, dans la stylistique, il y a un côté un peu Tennessee Williams aussi.
Il y a Tennessee Williams, oui, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, que j'aime beaucoup, oui. Mais je préfère Faulkner. Mais bon, j'aime beaucoup Tennessee Williams.
Ouais. Zone artistique à défendre, voilà ce que signifie ZAD. Ouais. Quelle est l'idée aussi derrière?
Elle part de l'écriture. Il y a une volonté dans l'écriture. Il y a la volonté dans l'écriture d'avoir une écriture qui soit proche, qui soit très très... Et du coup, dans la mise en scène, qu'il y ait quelque chose qui soit un univers que moi, personnellement, je ne trouve pas assez traité dans le théâtre. Alors après, quelque chose qu'on voit beaucoup plus dans le cinéma. Des pochards, des gens qui pourraient cracher, etc. Vous voyez, des gens qui sont lugubres, qu'on voit dans la littérature sud-américaine et américaine, mais qu'on voit moins dans une écriture française qui est, à mon goût, beaucoup plus distancière. Bien sûr, il y a quelques auteurs qui pratiquent. Mais du coup, j'avais la volonté, dans cette zone artistique à défendre, de travailler là-dessus, avec une écriture qui est la mienne. Donc du coup, c'est facile de faire ça, puisque c'était la continuité de ça. Mais là, le prochain texte, qui s'appelle « Le souffle de la bombe », qu'on va monter à Vérolien, c'est pareil, il y a ça. Mais, alors peut-être un jour, j'en sortirai, puis on mettra un autre nom à la compagnie. Mais il y avait cette vraie volonté, dans l'écriture et dans l'artistique. Mais attention, il y avait aussi autre chose qui est dans la relation qu'on peut avoir ensemble, tous ensemble, qui est quelquefois difficile à mettre en place, puisque nos sociétés, des fois, vous savez, quand on est intermittent, du coup, on nous contraint à des choses qui font qu'on a des automatismes, des fois, de survie. Et moi, je voulais avoir une notion très humaine, très humaine, je ne sais pas si... En tout cas, la dimension, je sais pas ce que je pourrais dire, sociale, mais que on ait des valeurs qui soient communes sur, ne serait-ce que sur Avignon, par exemple, que tous on soit pas dans une situation financière ou des situations difficiles, vous voyez. Ça, je veux pas, ça, il n'est pas question de ça. Donc, la zone à défendre, c'était ça aussi.
ZAD est aussi visible sur Internet?
Oui, du coup, le fameux www.compagniezadtoutattaché.fr. Voilà.
Dans ce Sunset Café, je suppose qu'en raison du poids, il n'y a pas de jukebox.
Il y a un DJ à la place.
Voilà. Alors le DJ, pour illustrer musicalement cette émission, est-ce qu'il pourrait nous proposer un petit morceau?
Oui, et ben Monstrous de Métronomie.
Eh bien, l'émission s'est terminant. Je vous remercie donc tous, David, Rodolphe, Aurélien, Engie et Thibaut, d'être venus nous parler donc de Sunset Café. Ça passera ce soir à 20h30, merci,
au monastère de Sainte-Croix, dans la salle des Antonins.
Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
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 Au revoir.
Au revoir. Feel unwell.
So hold on tight to everything you love. Honestly, it's all I care about. Hold on tight to everything you love. Honestly, it's all I'm thinking of. Hold on tight to everything you care about. Hopelessly, it's all I dream about. Hold on tight, cause this might be the last time we done. Didn't say you couldn't do it well. Only step I have to try again. I can never stop from listening in. Someone's left a car engine running. Every night's the mark of a new day. And every day's the mark of something new. Promise that you'll follow me. I couldn't stand to be alone. And it could wait. Wait for the after show. I've got four more, so why are you bawling for? I've got a whole bag to burn, and I could have never swam.